Les infos.
Alors on y est, direction les Mayotte où le cyclone Chido a dévasté l'île ce week-end, laissant derrière lui un spectacle de désolation. Avec des vents atteignant les 220 km/h, les infrastructures ont été sévèrement touchées. Routes coupées, maisons éventrées et hôpitaux sous tension. Le bilan provisoire fait état de 14 morts et plus de 120 blessés, mais ces chiffres pourraient encore grimper. Face à cette catastrophe, les autorités locales lancent un cri d'alarme pour obtenir une aide humanitaire d'urgence. Des équipes françaises et des ONG se mobilisent déjà pour intervenir sur place. Une fois de plus, cet événement pose la question brûlante de l'adaptation au changement climatique, particulièrement pour les territoires insulaires. En France, François Bayrou, vétéran centriste et proche d'Emmanuel Macron, a été nommé Premier ministre ce week-end. Cette décision fait suite à la démission de Michel Barnier, contraint de quitter son poste après une motion de censure votée à l'Assemblée nationale. Bayrou arrive en pleine tempête politique, avec pour mission délicate de calmer les tensions sociales et de rétablir le dialogue avec les syndicats, particulièrement autour de la réforme des retraites. Son défi est colossal, renouer avec une politique de plus en plus critique envers les institutions, tout en assurant la stabilité de la majorité présidentielle. La France retient son souffle. Et avec trois premiers ministres en une année, on pourrait presque croire que c'est devenu un job saisonnier. En Suisse, c'est les rails qui fait l'actualité. Un changement d'horaire majeur est entré en vigueur hier sur les lignes des CFF en Suisse romande. Les trajets entre Genève et Lausanne ainsi que Lausanne-Brigg bénéficient désormais d'une cadence accrue, notamment aux heures de pointe. Ce changement s'inscrit dans le cadre du projet Léman 2030 qui vise à moderniser le réseau ferroviaire pour répondre à la hausse constante du nombre de passagers. Une chose est sûre, ce lundi matin, vérifiez bien les horaires de vos trains avant de partir. À Lausanne, cela fait maintenant un an que nous avons une nouvelle spécialité locale, la weed. Grâce au projet pilote CanEl, lancé il y a exactement un an, plus de 1200 participants peuvent acheter du cannabis dans un cadre légal, accompagné de conseils personnalisés. Cette initiative vise à tester les effets d'une légalisation contrôlée sur la consommation de cannabis et ses impacts sur la santé publique. Avec plus de 10 kg de cannabis écoulés en novembre, les autorités constatent une diminution de la consommation des produits issus du marché noir et un meilleur suivi des utilisateurs grâce à des consultations régulières. Selon la ville, les résultats de cette année sont très encourageants. Alors qui sait, peut-être que dans un an, au Beau Noël de Lausanne, nous aurons des sapins un peu plus aromatisés.
La météo.
Merveilleux, là, leur météo, effectivement. Qu'est-ce qui va passer cette semaine? Eh bien, on peut le résumer très facilement. Il va faire froid, sombre, c'est génial. On est en décembre, fin de l'année. Alors, il faudra juste faire un petit peu attention. Jeudi, il va pleuvoir, presque sûr. Et voilà, on n'aura jamais plus de 10 degrés. C'est génial, c'est une fin d'année sublime. Et on est parfait comme ça.
Bonjour, bienvenue à tous dans ce dernier Café Kawa pour notre part pour cette année. Un Café Kawa qui commence avec un début un peu compliqué, on va pas se mentir. Aujourd'hui avec moi, j'ai Romain qui est là. Comment ça va Romain?
Ça va bien.
C'est un peu le bazar mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Et oui, t'es en forme pour cette dernière?
Ah perso oui, je suis très prêt et j'ai quelques petites surprises sous ma manche.
Alors on a très hâte de voir ça. Alfio est avec nous aussi, comment ça va Alfio?
Je suis là, un peu partout au soutien de mon ami.
En
train de courir un peu partout dans le studio. Je n'ai même pas mon casque à l'heure actuelle, ah voilà je l'ai, j'ai
ça,
mon
ça,
temps.
Ça réveille
exactement pour c'est un lundi parfait. Matin.
Et Victor à la technique est là avec nous, comment Victor, ça va Victor?
Je nage un peu hein, je galère un peu mais ouais. Ça va.
Bah t'inquiète, t'as fait natation dans la nuit.
Ouais. On passe une salutation à Maxine qui sera absente aujourd'hui, qui est malade. On lui souhaite un très bon rétablissement. Et on va commencer tout de suite cette émission. Pour bien commencer la matinée, on va s'écouter un petit morceau de Vince Staples. C'est Black and Blue tout de suite sur Fréquence Banane.
Eh bien, c'était une merveilleuse petite musique de Vince Staples, Black and Blue.
Et oui.
Et suivi d'un léger petit moment de tranquillité. On peut continuer notre petite discussion sur avant, je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait.
Tu parlais de ton week-end.
Je parlais de mon week-end, tout à fait. Oui, j'ai été voir quelque chose au Théâtre Barnabé et j'ai trouvé ça assez innovant, genre très rare. Le fait que, dès le début, c'était planifié comme quoi ça allait être une comédie musicale foireuse.
Ok.
Et du genre vraiment, mais c'était fait pour ça.
C'est parti.
Mais avant.
Le journal, évidemment, mesdames et messieurs.
Fréquence Banane est certes une radio d'étudiants, mais il en va de notre devoir de vous informer des news du monde entier. Et cela, même dans les contrées les plus reculées de notre planète, car celle-ci possède elle aussi des informations importantes. En effet, il est rare que le pôle Nord soit secoué de telles secousses comme durant cette nuit précédente. À quelques jours de Noël, une série d'événements tragiques et inattendus a plongé le monde entier dans l'incertitude la plus totale. Ce matin, nous avons le fardeau de vous apporter les nouvelles qui pourraient malheureusement signifier la fin des célébrations de Noël cette année, ou du moins leur transformation complète. Tout a commencé avec une révolte spectaculaire parmi les lutins du Père Noël. Depuis des siècles, ces créatures joviales et dévouées ont travaillé sans relâche pour fabriquer les jouets destinés aux enfants du monde entier. Mais cette année, sous un climat de fatigue et de frustration grandissante dû à l'inflation et aux baisses de salaire, un groupe de lutins a pris une décision audacieuse, celle de se révolter contre leur maître. Et leur alliance avec un allié des plus improbables, le Grinch, a amplifié la gravité de la situation. Les lutins, sous l'influence du Grinch, ont saboté les machines à jouets, modifiant les circuits et perturbant toute la production. Ce ne sont pas les traditionnels jouets que les enfants attendent sous le sapin, mais des objets déconcertants et pour certains franchement perturbants. Des livres d'analyse, des livres de Voltaire, c'est horrible. Des poupées qui chantent, des airs désaccordés, rien ne va. Le chaos s'est emparé de l'atelier. Et même le Père Noël, connu pour sa sérénité et sa sagesse, ne savait plus comment réagir. Noël, tel que nous le connaissions, semblait perdu. Mais ce n'était pas tout, car plus tard dans la soirée, la disparition de Rudolf, l'un des rennes les plus précieux du Père Noël, a ajouté de la tragédie. Rudolf, le renne au nez lumineux, guidant traditionnellement le traîneau du Père Noël à travers les tempêtes de neige et les cieux étoilés. Sans lui, la magie de Noël risque de s'effondrer. Une équipe de recherche a été envoyée dans toutes les directions, mais aucune trace du renne guideur. C'était comme s'il avait été englouti par la neige elle-même. Sans ce renne légendaire pour conduire le traîneau, il semblait impossible pour le Père Noël de distribuer les cadeaux à temps. Le pôle Nord, normalement un lieu de festivité et de joie, est désormais un lieu de désespoir. Les lutins, loin de leur tradition joyeuse, se disputaient et sabotaient tout sur leur passage. Le Père Noël, effondré, contemplait un avenir où Noël, cette année, ne pourrait pas avoir lieu. Les enfants du monde entier vont se réveiller sans cadeaux et la magie de Noël risque de disparaître à jamais. Mais attendez, on me dit « Oh, flash info !» Heureusement, dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir là où on s'attend le moins. Un duo improbable a pris les choses en main. Glaceo, un bonhomme de neige astucieux, et Pingouinoff, son brillant partenaire pingouin technicien, c'est bien étrange dis donc, ces deux héros font preuve d'une ingéniosité hors du commun pour trouver une solution à cette crise inédite. Utilisant les pouvoirs magiques des cristaux glacés qu'ils ont récoltés à l'aube dans la montagne du pôle, Glaceo a créé une machine capable de localiser Rudolf. Celui-ci semble paralysé par le froid absolu et de la tempête de neige de cette nuitée. Avec l'aide de Pingouinoff, un maître des circuits et de l'automatisation, ils sont en train de réparer les machines de production de jouets, rétablissant l'ordre et apportant de la stabilité dans l'atelier. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est merveilleux. Avec Rudolf retrouvé désormais et les machines réparées, le Père Noël peut maintenant repartir en toute sérénité. Les lutins, désormais réconciliés à la suite d'une grasse augmentation de salaire se composant majoritairement de tickets restaurants chez la Mère Noël, travaillent à nouveau d'arrache-pied et même le Grinch, étonnamment, a accepté de faire la paix et de contribuer à la production des jouets. L'esprit de Noël, fort de cette épreuve, renaît dans le cœur de tous. Alors, chers auditeurs, Noël sera sauvé, tout va bien! Grâce à la magie, à l'ingéniosité et à l'unité, ce qui semblait être un Noël perdu est désormais un Noël d'espoir, d'inventivité et de renouveau. Les enfants du monde entier pourront ouvrir leurs cadeaux le matin de Noël et le Père Noël pourra, cette fois encore, répandre la joie dans chaque foyer.
Merci beaucoup Romain pour ce journal et merci surtout de mettre en avant ces contrées dans le monde que personne ne parle et qui sont délaissées par les autres médias. Mais sur Fréquence Banane, on en parle également. Tout de suite, on va s'écouter une nouvelle musique de Latsa et Laura Pausini. C'est Céline Piu sur Fréquence Banane.
Fréquence Banane, la revue de presse.
Pour cette revue de presse de ce lundi 16 décembre, nous allons parler du budget 2025 de la Suisse et ses implications économiques. Cette semaine dans l'actualité suisse a été marquée par l'adoption du budget 2025 par le Conseil national. Ce budget, approuvé par 120 voix contre 73, vise à stabiliser les finances publiques dans un contexte économique tendu. Les réactions des médias suisses mettent en lumière différents aspects de cette décision. Un budget sous le signe de la rigueur financière pour la RTS, qui souligne que ce budget vise à maintenir les dépenses publiques tout en respectant les principes du frein à l'endettement. Le défi est d'équilibrer les besoins en investissement, notamment dans les infrastructures et la transition énergétique, face aux contraintes fiscales. La RTS met également en avant des critiques de certains parlementaires qui jugent que les coupes budgétaires risquent de freiner la croissance économique. Des réactions politiques plus contrastées pour le 24 heures, ce budget reflète les divisions politiques habituelles. Les partis de droite saluent une gestion responsable des finances, tandis que la gauche déplore un manque d'investissements sociaux, notamment dans le domaine de la santé et de la lutte contre les inégalités. Le journal insiste sur le fait que les mesures annoncées pour réduire les dépenses pourraient affecter les services publics dans certains cantons. Un contexte économique délicat, Suisse Info replace cette discussion dans un cadre plus large, en évoquant les incertitudes économiques pour 2025. Les prévisions montrent une croissance modérée, fragilisée par le ralentissement des marchés internationaux et la hausse des taux d'intérêt. Le média explique que ce contexte a pesé sur les décisions budgétaires, les autorités souhaitant éviter un surendettement tout en soutenant les secteurs stratégiques comme l'industrie et l'innovation. Pour l'opinion publique et les syndicats, la presse rapporte les inquiétudes. La Tribune de Genève cite plusieurs représentants syndicaux dénonçant le manque de mesures pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et surtout le pouvoir d'achat des ménages. Cette question, largement débattue, reflète une tension entre les impératifs budgétaires et les attentes de la population. Enfin, certains médias comme Le Temps soulignent l'impact des choix budgétaires suisses sur sa réputation économique mondiale. Le maintien d'une gestion rigoureuse est perçu comme un atout dans un contexte où plusieurs pays européens rencontrent des difficultés budgétaires majeures. Toutefois, l'enjeu sera de préserver ce positionnement tout en répondant aux défis sociaux et climatiques à venir. Pour conclure, ce budget 2025 reflète une Suisse en quête d'équilibre entre rigueur financière et ambition sociale. S'il rassure sur le plan international, il soulève des débats internes pour les priorités à adopter face aux enjeux économiques et environnementaux. Les médias suisses, en couvrant cette thématique, offrent une vue d'ensemble des tensions et espoirs qui traversent le pays.
Mais qu'est-ce qui se passe en ville ?
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda ! Tout d'abord, shout-out à Maxime qui a écrit cette chronique mais qui n'est pas là aujourd'hui pour cause de maladie. Force à toi. Alors, commence. Pour que vous soyez au courant de tout afin de faire le meilleur dernier choix de l'année, voici ce matin l'agenda des événements pour Nouvel An à Lausanne. Pour rester dans le traditionnel, vous aurez la possibilité d'écouter les concerts de minuit et de Nouvel An à la cathédrale. À partir de 22h30, le programme du spectacle reste une surprise, mais se terminera tout de même par le boléro de Ravel. S'en suivra à minuit l'embrasement de la cathédrale par les amis de la cité. Le rendez-vous est sur l'esplanade, c'est gratuit et vous pourrez même déguster un bon vin chaud offert. Sinon, pour les plus fêtards, le Bon Noël se transformera au Bon Noël Nouvel An en organisant une géante silent disco à la plateforme 10, de 18h à 2h du matin. Vous pourrez également vous disperser dans les boîtes de nuit de la ville, bien évidemment. Pour cet agenda, c'est le MAD qui retient notre attention avec son immense organisation. 4 lieux, 7 dance floors et 4 repas de gala. Que ce soit au Palace ou au MAD, le club organise un multipass à partir de 49 francs qui vous donne accès à tous les différents endroits de la longue nuit. Il est également possible de réserver le souper ainsi qu'une nuit d'hôtel avec 10% de réduction au Madhouse.
Fréquence banane. L'info campus.
Le traditionnel bal de Noël aura lieu jeudi soir. Au programme, Bifort au Barberousse, au Lapin Vert et au 13e de 19h à 23h. Ensuite, vous pourrez rejoindre la boîte de votre choix parmi les 6 collaboratrices. La préloque coûte 10 francs et il faudra être au taquet mardi à 11h pour récupérer la vôtre car les places sont limitées. Toutes les infos sont sur les comptes Instagram de votre section préférée. Mercredi à Zelig aura lieu le marché des créatrices de 11h à 18h. Plusieurs artistes seront présents pour une belle ambiance créative pour s'offrir des petits cadeaux de Noël. Toujours à Zelig, rendez-vous jeudi pour la dernière soirée du semestre, celle des DJ membres. Le prix est libre, il y en aura pour tous les goûts musicaux. Finalement, les distributions de vins chauds gratuits s'enchaîneront dans les couloirs durant toute la semaine. Mardi, c'est au bureau de l'AEL qu'il faut se rendre de 13h à 16h. Mercredi, de 16h à 19h, rendez-vous à Géopolis avec l'ASP. Jeudi, les HEC organisent un marché de Noël à l'esplanade d'Internet de 17h30 à 20h. Boissons chaudes, nourriture et 11 temps y seront pour vous accueillir. Voilà, n'oubliez pas de checker régulièrement les comptes Instagram de vos assos étudiantes et on vous souhaite de belles fêtes. C'était donc l'Info Campus, l'agenda et la revue de presse. On envoie une petite pensée à Maxine qui aurait dû faire ses deux chroniques mais qui n'est pas avec nous malheureusement. Tout de suite, on va s'écouter une nouvelle musique. On va s'écouter un son de Gunna Hakuna Matata sur Fréquence Banane.
Fréquence Banane, le journal des sports.
La FIFA a dévoilé les pays hôtes de Coupe du Monde 2030 et 2034. Et une fois de plus, les décisions suscitent autant de fascination que de critiques. Si ces choix affichent une volonté de grandeur et d'innovation, ils soulèvent également des questions sur les valeurs et les priorités réelles du football mondial. Pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde en 1930, la FIFA a opté pour un format spectaculaire pour 2030. Des matchs principaux en Espagne, au Portugal et au Maroc, mais avec une ouverture sud-américaine en Uruguay, Argentine et Paraguay. Une idée séduisante sur le papier qui rend hommage à l'histoire du tournoi. Mais à quel prix ? Ce format oblige les équipes et les fans à traverser trois continents, multipliant les émissions carbone et complexifiant la logistique. Et si les hommages au passé est fort, beaucoup se demandent si ce n'est pas un prétexte pour satisfaire un maximum de parties et éviter les frustrations géopolitiques. Pour 2034, sans grande surprise, la FIFA a choisi l'Arabie Saoudite comme hôte. Le pétrodollar attire. Après le Qatar en 2022, c'est un retour dans le Golfe, avec des promesses d'infrastructures ultra modernes et un budget faramineux. Mais cette décision polarise. Comment justifier un tel choix dans un pays régulièrement critiqué pour son bilan en matière de droits humains ? Et quid des impacts écologiques d'un événement d'une telle ampleur dans un pays où l'eau et l'électricité sont déjà des ressources précieuses dans ces parts désertiques ? Pour beaucoup, ce choix illustre une fois de plus l'influence grandissante de l'argent dans les décisions sportives au détriment des valeurs éthiques et environnementales. Avec ses choix, la FIFA affiche une volonté de s'imposer comme un acteur planétaire, traversant les frontières et célébrant le football comme un sport universel. Mais cette quête d'expansion ressemble aussi à une stratégie commerciale, où les retombées économiques et les partenariats stratégiques priment sur l'accessibilité pour les fans, le respect des droits fondamentaux ou encore la durabilité écologique. Ces Coupes du Monde posent donc une question cruciale. Jusqu'où est-on prêt à aller pour faire rayonner le football et à quel prix ? En parlant de coûts, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont officiellement clôturé leur budget. Et le comité d'organisation, le COJO, présidé par Tony Estanguet, affiche un léger excédent budgétaire. Une réussite, du moins sur papier, mais qui ne doit pas occulter certaines zones d'ombre. Avec un budget initial d'environ 4,4 milliards d'euros, majoritairement financé par des fonds privés, partenariats, billetterie et droits télévisés, le COJO se félicite d'avoir maintenu ses comptes dans le vert. Grâce à notamment des recettes de billetterie records. 10 millions de billets ont été vendus, un succès qui reflète l'engouement du public. Cependant, pour atteindre cet équilibre, il a fallu puiser dans des réserves prévues pour cela. Et la rigueur budgétaire s'est parfois traduite par des restrictions sévères, notamment certains aspects organisationnels. Si le COJO a maîtrisé ses finances, il faut toutefois distinguer le budget du COJO de celui de la société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, responsable de la construction des infrastructures pérennes comme le village olympique et le centre aquatique. Ce budget, qui est séparé d'environ 4 milliards d'euros, a été financé en grande partie, lui, par des fonds publics. Les infrastructures devraient laisser un héritage durable, notamment en Seine-Saint-Denis. Mais ici aussi, le tableau est contrasté. Si ces infrastructures devraient revitaliser certains territoires, les critiques sur les expulsions, les perturbations sociales et l'impact écologique persistent. Peut-on parler d'un héritage positif quand une partie de la population locale s'est sentie sacrifiée sur l'autel de l'olympisme ? Tony Estanguet a présenté Paris 2024 comme un modèle de gestion financière responsable dans un contexte économique marqué par l'inflation et les incertitudes mondiales. Mais cette image est-elle totalement honnête ? Les JO restent un événement d'une ampleur démesurée avec des coûts sociaux et environnementaux souvent sous-estimés. La promesse de durabilité, neutralité carbone, économie d'énergie... Mais ces ambitions affichées par le COJO se heurtent à la réalité, un impact écologique conséquent, malgré des efforts pour minimiser cette empreinte. Enfin, si l'excédent budgétaire est confirmé, il sera réparti selon les règles établies. Une part ira au Comité international olympique, une autre au Comité national olympique français et le reste sera dédié à des projets sportifs en France. Mais pour beaucoup, ces chiffres peinent à masquer une question plus large. Les Jeux olympiques modernes sont-ils encore compatibles avec les défis sociaux et écologiques d'aujourd'hui ? Paris 2024, malgré son succès financier apparent, n'échappe pas à ce débat. Plongeons à présent dans le monde de la natation. Noé Ponti, le prodige tessinois de la natation suisse, a réalisé un exploit retentissant au championnat du monde en petit bassin à Budapest. Il a décroché non pas un, mais bien trois titres mondiaux. Il s'est imposé sur le 100 mètres papillon, sa discipline de prédilection, avec un temps de 47 secondes et 71 centièmes. Battant ainsi de 7 centièmes le précédent record du monde détenu par l'américain Caleb Dressel. Ce succès s'ajoute à ses victoires sur 50 mètres papillon et 100 mètres quatre nages, faisant de lui un des plus titrés de ces championnats. À 23 ans, Ponti exprime son incrédulité et sa joie. « J'ai battu le record du monde de mon idole, c'est complètement fou. » Cette performance exceptionnelle confirme la montée en puissance de Noé Ponti sur la scène internationale. Elle lui permet d'oublier quelque peu sa médaille en chocolat de Paris 24 avec sa 4ème place. De ses exploits aquatiques, passons maintenant à la neige et à la vitesse, où les skieurs et skieuses suisses s'illustrent sur les pistes du monde entier. La saison de ski alpin 2024-2025 est lancée, et les athlètes suisses commencent déjà à faire parler d'eux. Chez les hommes, Loïc Meillard a fait sensation en slalom à Val d'Isère, décrochant une superbe 3ème place. Ce podium confirme son statut de leader solide dans l'équipe suisse. Et ce n'est pas tout, Daniel Yuel a également brillé, offrant à la Suisse son premier podium de la saison en slalom, avec une 3ème place à Kitzbühel. Un 16ème podium en sa carrière pour lui qui prouve qu'il n'a rien perdu de son talent. Côté féminin, Laura Gut-Berami continue de démontrer son expérience et sa régularité. La Tessinoise a flirté avec le podium en descente à Beaver Creek, terminant 4ème et promettant encore de belles surprises pour la suite. Mais c'est Camille Rast qui vole la vedette. La Valaisanne de 25 ans a décroché son premier podium en Coupe du Monde, terminant 3ème en slalom de Killington. Une étoile filante, une étoile montante à suivre de très près. Les Suisses sont en grande forme et prêts à nous offrir une saison palpitante, alors restez connectés car nos skieurs n'ont pas fini de nous faire vibrer.
Merci Alfio pour ce journal des sports très complet. Tout de suite, on va s'écouter un morceau de MC Lippi. C'est Prepara a Sprancha sur Fréquence Banane. Très bien, pour cette dernière émission, aujourd'hui nous allons avoir un petit quiz préparé par Romain. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ?
Oui, chouette !
Du coup, oui, effectivement, j'ai préparé un joli petit quiz sur le thème de Noël, l'image de Noël, et aussi dans les autres cultures, globalement un peu de tout, c'était un peu un fourre-tout. Et globalement, on va faire simple. Ici, nous avons du coup deux équipes, j'ai envie de dire, composées de Alfio, Matteo et peut-être Victor, s'il arrive à faire à suivre.
Ça devrait le faire, je crois.
Ça devrait le faire. J'espère. Du coup, nous avons la première équipe Banana Skip et nous avons de l'autre côté nos formatrices, nos très chères formatrices qui sont là depuis le début. Il est temps un petit peu de leur offrir un peu de répit et l'occasion de nous casser la tronche. Du coup, voilà. Comment ça va se passer ? C'est, on va dire, relativement simple. Je vous pose une question sur le thème Noël. Culture de Noël, bref, etc. Vous avez quatre propositions et vous trouvez la bonne réponse. Puis voilà.
Est-ce que tu peux juste mettre au clair ce qu'il y a à gagner que tu m'as teasé avant ?
Bien entendu, vu que nous sommes en train de... en période de Noël, la période des cadeaux, tout ça, je propose que l'équipe perdante offre un verre de vin chaud à l'équipe gagnante.
Marrant.
Que ça vous motive.
Ça peut, ouais. Si ça vous motive.
Ça peut se faire. Mais j'ai pas compris un truc. Comment toi tu poses à chaque équipe une question particulière ?
Ce sera vous deux.
On doit buzzer.
Vos deux équipes.
On doit buzzer.
Pas forcément buzzer, non. Mais vous vous mettez d'accord pendant quelques instants et vous donnez une réponse à la fin.
Ok. C'est-à-dire on peut la crier comme ça.
Vous pouvez déconcentrer l'ennemi sans souci. Okay.
Est-ce qu'on doit attendre que t'aies dit les quatre propositions ?
De préférence, ouais.
De préférence, ouais, faut des règles fixes parce que je vois qu'elle commence déjà à jouer avec les limites.
Fais gaffe à ton écran, ouais.
Fais gaffe à ton écran, mec.
Qu'elle regarde la réponse.
Mec, tu sais ce qu'on fait ? Moi, je les déstabilise et toi tu réponds, mec.
Vas-y,
je suis chaud. Juste t'enlève le
casque. Regarde, t'enlèves le casque, je crie le plus fort possible dans le casque.
Vous êtes prêts ?
Yes.
Oui.
Allez.
On va commencer avec une question simple.
On t'entend pas trop.
On entend moins.
Oui, c'est pas pourquoi. Ah, ah c'est parce que j'étais un peu trop loin. Merveilleux. Du coup, on va commencer par une question simple. Dans quel pays est situé le village du Père Noël en Laponie? Petit A, en Suède. Petit B, en Norvège. Petit C, en Finlande. Petit D, en Estonie. Mettez-vous d'accord?
Ouais, nous on a.
Nickel. Équipe 1, qu'est-ce que vous proposez? Nous allons estimer ça par les banana skip.
Finlande.
En Finlande. Équipe B?
Finlande aussi.
Merveilleux. Et c'est bel et bien en Finlande. Maintenant, pour un petit point supplémentaire, est-ce que vous sauriez citer la ville par hasard?
Je sais pas. Non, moi j'ai pas. Toi, t'as?
Santa Claus Village.
Je sais pas. Ah non, moi je l'ai pas.
Loïs, peut-être.
Okay, la Laponie.
Non, la Laponie, c'est la région. Mais de...
presque.
Lausanne.
Non. Mais c'est bel et bien en Finlande. Non, c'est pas. C'est bel et bien en Finlande. Bien que la Laponie, justement, c'est une région un peu transnationale, le village du Père Noël, c'est en Finlande et c'est près de la ville de Rovaniemi. Oula. Comme ça, vous le saurez. C'est l'attraction la plus touristique de Finlande. Attention.
Ah bah, j'imagine bien.
Ouais. Voilà. Maintenant, je vous propose d'être prononcer vos paroles, vos pensées, vos réponses en même temps. Évitez de tricher, vous voyez.
Ok.
Je vous vois. Bon, c'est une question simple. On va partir sur un petit peu plus... de plus en plus dur, je propose. Puis voilà. Seconde question. D'où vient Santa Claus, le nom anglais du Père Noël aux États-Unis depuis le 19e siècle? De Russie, de Hongrie, de Pays-Bas ou de Finlande?
Du Pays-Bas.
De... pas un truc?
De Pays-Bas.
De Pays-Bas.
Mais... ah, la technique.
Vous voyez le problème? Mais oui, c'est bien et bien de...
Let's go.
Bah non, mais c'est moi qui ai le point. Enfin, c'est moi et Louise.
Bah et... alors, avant, on a eu l'idée.
L'idée, c'est quand même que les deux répondent en même temps. Histoire... les deux ont la possibilité d'avoir les réponses.
Parfait.
Parce que là, pour l'instant, tu peux le déblatérer comme ça. Mais après, le... j'ai un peu plus de doutes.
C'est-à-dire, on a deux fois deux points, là.
Ouais. Voilà.
C'était du bol ou tu savais?
Je vais pas dire.
Je me suis dit dans le doute, on prend comme
écran quand même.
On plonge avec.
Ça, on écran, quand même.
Ah non, mais non, mais non, je vois bien. Pas. Hein.
Du coup, cette tactique elle nique tout le jeu.
Non, mais quand même pour expliquer et pas juste sortir ça un peu du vent, histoire qu'on apprenne un petit peu. Santa Claus, ça vient de Sinterklaas, qui signifie Saint Nicolas. Puis quand les Hollandais se sont installés aux États-Unis, le Père Noël est devenu Santa Claus. Un procédé linguistique que j'ai oublié. Et dommage, je vais pas pouvoir demander à Maxine qui n'est pas là. Bon, après, est-ce qu'elle aurait eu la réponse? Oui, sûrement. Mais bref, du coup, 2-2, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû prévoir des petits tableaux, histoire que vous ne trichiez pas sur les autres.
Chill.
C'est pas grave. Au pire, vous vous offrirez aux deux du vin chaud. Bref, troisième question. De quelle année date la première mention écrite de la tradition de l'arbre de Noël? En 421, en 1021, en 1521 ou en 1934?
1021.
Non. Très récent.
Concertez-vous.
C'est sûr, frère. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc, tu sais, qui vient un peu païen, tu sais. Non, c'est quoi les païens, déjà?
Ça, je sais pas.
C'est quoi les autres? Tu peux répéter?
En 421... en 1021, en 1521 ou en 1934.
Frère, moi je crois que
tu me fais confiance ou quoi?
Je sais pas, hein. Vas-y.
La dernière.
Non, frère. T'es
1934
ouf
pour l'équipe.
T'es un malade, mec. Non, moi je refuse la réponse de mon coéquipier.
Ah non, on t'entend pas.
On t'entend pas vraiment, malheureusement. Ou bien mettez-vous à côté et comme ça vous pourrez aussi.
Non plus.
Non, celui-là ne fonctionne pas non plus le micro.
Mais viens, on dit la même chose que.
Mais lui, il a un...
Non, t'as déjà validé. Ouais,
on a répondu.
Ça compte pas.
On dit la même chose.
Moi, je croyais que c'était un truc comme ça, genre...
on dit la troisième.
En 1521
Ouais, c'est
mec. Gros, voilà. T'es chaud, on prend...
Les choix diffèrent, mais il y a une bonne réponse.
1021 Tu veux
même
prendre...
vous avez déjà validé. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a une bonne réponse parmi les deux, mais c'est en 1521.
Ah bah oui, frère.
C'est quand même assez...
Je sais pas, j'ai tenté un truc.
C'est quand même assez ancien. Et pour expliquer un petit peu plus... t'as en Alsace un livre de contes de la ville de Célestat qui fait mention des sympas de Noël où chaque habitant était libre de venir prélever leur propre sympa pour le décorer. Ce livre, il est d'ailleurs toujours précieusement conservé dans la ville. À noter N'empêche quand même, pour ceux qui hésitaient avec le médiéval, que c'est pas si faux, c'est pas si déconnant, parce que la tradition de l'arbre de Noël, c'est plus ancien, autour du 12e siècle. Ça fait plaisir quand même d'avoir un petit peu d'histoire derrière. Bref.
Dommage.
On est assez calé. 3 à 2 pour l'instant, pour l'équipe B, l'équipe des formatrices. Faut se rattraper un peu, les gars.
Losers,
hein. Ah, les nuls.
C'est bon, allez, là, on est bon.
Parmi ces propositions suivantes, laquelle ne remplace ou ne remplaçait pas le Père Noël dans certaines cultures ? Un bonhomme de neige, des lutins, une sorcière ou une chèvre ?
Qui remplace le Père Noël ?
Non, qui remplace pas.
Laquelle n'a jamais remplacé le Père Noël en tout instant ?
C'est-à-dire quoi ? La figure du Père Noël, genre un gars qui ramène des cadeaux.
Exact.
Redis, s'il te plaît.
Je pense une chèvre, ça peut ramener des cadeaux, frère.
Un bonhomme de neige, des lutins, une sorcière ou une chèvre ?
Moi, je dirais bonhomme de neige, frère.
Ouais, moi, je pense... peut-être le lutin.
Non, le lutin, c'est ça.
C'est un piège, j'ai un piège, je pense.
Les équipes se concertent. Est-ce que vous avez une idée minimum ? Est-ce que vous êtes prêts à libérer la réponse de vos
bonhommes
de
neige ?
Ouais.
Bonhomme de neige, nous.
Bonhomme de neige pour l'équipe 1, une sorcière pour l'équipe 2. Il y a une bonne réponse, nouveau. Mais qu'est-ce que c'est serré, c'est merveilleux. Mais c'est un bonhomme de neige.
Boum, mec ! Et ouais.
T'as eu la vision.
Parce que sorcière, c'est où ? C'est en Italie.
Exactement.
Et ouais.
Est-ce que tu sais le nom ?
C'est la Befana.
Exactement. Dans le sud de l'Italie.
Voilà, c'est chez moi.
Puis pour raconter un petit peu pour les autres, en Islande, il y a des lutins qui sévissent un petit peu pendant tout le mois de décembre. Et en Scandinavie, le Père Noël est parfois remplacé par la Yulebok, soit une chèvre.
Okay.
Alors selon la mythologie, Thor l'aurait monté et l'aurait distribué la fertilité autour du monde. What? Ça, c'est après la mythologie. C'est petit bonus. Écoute, j'ai un petit peu de culture générale, je profite de l'étaler comme la confiture. Et voilà.
Ah bah, heureusement.
Mais du coup, nous sommes à 3-3. Ah là là, ça va pas le faire, il faut vous départager là. Peut-être avec cette question-là. Quelle est l'origine de la tradition de la bûche de Noël qu'on mange en dessert ? Une bûche était autrefois un signe de fertilité pour la naissance de Jésus. Une bûche décorée était brûlée à Noël. Une bûche de bois était il y a longtemps un cadeau apprécié. Ou bien, une bûche de bois était une décoration de table à Noël.
Oh putain. Est-ce que tu peux répéter
Oui, bien sûr. On va les résumer. Un signe de fertilité pour la naissance de Jésus. Une bûche était brûlée à Noël. Une bûche, c'était un cadeau apprécié. Ou une bûche, c'était une décoration de table à Noël.
On part sur la troisième réponse.
Un cadeau apprécié pour l'équipe B.
Et sur la deuxième.
Ouais, sur la deuxième.
Une bûche décorée brûlée à Noël. Il y a une bonne réponse. Voilà, c'est tout. Non, alors, pour expliquer, au départ, la bûche de Noël, c'était pas comestible. C'était en fait une grande souche en bois que l'on faisait brûler le plus longtemps possible. Donc c'est bel et bien la réponse.
Bam, là. Let's go.
Elle était décorée de feuillages et de rubans. Puis c'était un rite païen afin de bénir les futures récoltes. Voilà, voilà. Sur un petit 4-3. Mais ne soyez pas tristes. Il reste encore 3 questions. Et okay, je vais faire ça de manière très jolie et ça devrait bien se passer.
Let's go.
Au pire, c'est juste un vin chaud. C'est pas grave.
Let's go. J'en ai déjà l'eau à la bouche.
Merveilleux. Ainsi, que déposent les Norvégiens sous le sapin la veille de Noël ? Du lait des biscuits ? Des bananes ? Des pièces de monnaie ? Ou un bol d'avoine ?
Frère, déjà, il n'y a pas de bananes en Suède.
Ils connaissent pas.
Attends, un bol d'avoine ?
Un bol d'avoine, ouais.
De flocons d'avoine, genre ?
Ouais.
Et c'était quoi ? Du lait et des biscuits ?
Du lait et des biscuits, des bananes, des pièces de monnaie ou un bol d'avoine ?
Je pense que c'est soit le bol d'avoine, soit les...
L'autre. J'aime bien le lait, hein.
Ah, ça c'est trop...
C'est la fin de du temps de réflexion. Que pense l'équipe
A ? Les pièces.
Mais les pièces, vas-y.
Des pièces pour l'équipe A.
Un bol d'avoine.
Un bol d'avoine, c'est bel et bien un bol d'avoine.
Ah, merde, désolé, mec.
Un bol d'avoine, oh là là.
C'est extrêmement serré, dis donc. En fait, pourquoi ? Alors, pourquoi spécifiquement un bol d'avoine ? J'en ai aucune idée. Mais de base, c'est pour remercier les Nissées, c'est-à-dire des petits gnomes mythologiques, et, histoire de protéger les maisons et les familles. Et les Norvégiens leur procurent un bol d'avoine. Pourquoi ? Pourquoi spécifiquement un bol d'avoine ? Je saurais pas dire, j'ai pas trouvé dans mes recherches. Mais ce n'est pas grave.
Ils aiment bien.
Poursuivons. Quelle décoration en verre soufflé les Allemands cachent-ils par tradition dans le sapin de Noël ? Un cornichon, un navet, une banane ou une pomme de pin ?
Là aussi, ils
c'est
ont
un
pas
peu plus proche cette fois.
Ils sont
un peu plus proche de chez nous.
Ils connaissent pas. Pomme de pin, navet, banane. Et le dernier, c'était ? Il m'en manque un.
Un cornichon.
Cornichon, frère. Cornichon.
Je sais pas.
C'est la fin du temps de réflexion. Que pense l'équipe B ?
Pomme de pin.
Une pomme de pin.
Une pomme de pin pour l'équipe B. Que pense l'équipe A ?
La même.
Ouais, pomme de pin.
Aussi une pomme de pin ? Eh ben non, pas du tout.
Ah merde.
C'est un cornichon.
Oh
hein. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, pourquoi ? De nouveau, j'en ai aucune idée de pourquoi. Mais dans la tradition, les parents allemands ils cachent un cornichon dans le sapin le 25 décembre et l'enfant qui le trouve reçoit un cadeau supplémentaire ou a le droit d'ouvrir ses cadeaux en premier. Cette tradition remonte au 19e siècle, mais pourquoi un cornichon ? Aucune idée.
Ça, c'est bizarre, ces Allemands.
J'essaie de vous apprendre des trucs, mais ça marche moyennement parce que je sais à moitié. Mais tout va bien. Mais on arrive déjà à la dernière question. Mais ça ne va pas du tout parce que vous êtes à égalité à 4 à 4.
Des partages. Hein.
C'est. Ouais. On va espérer là. Mais
le but en or.
On va rester en Scandinavie parce que j'adore les pays du Nord.
C'est vrai que c'est très nordique tout ça.
En Suède et au Danemark. Comment s'appelle la fête se déroulant le 13 décembre et qui marque le début des fêtes de Noël ? La fête de l'hiver, la fête de Saint-Luc, la fête des sapins ou la fête de la Sainte-Lucie ?
Il y a plein de sapins là-bas.
Ah ouais ?
Il y a plein de sapins, ça va être des sapins.
C'est pas un saint. Est-ce qu'ils sont croyants ?
13, il n'y a pas.
Mais Saint-Luc sait, ou Sainte-Lucie ?
Je connais, frère.
Ouais,
je répète. Oui. La fête de l'hiver, la fête de Saint-Luc, la fête des sapins ou la fête de la Sainte-Lucie. Que pense l'équipe A ? Donnez-moi une réponse.
Sapin ?
Vas-y.
Sapin.
Ça part sur les sapins pour l'équipe A. Que pense l'équipe B ?
La deuxième Saint-Luc.
La fête de Saint-Luc.
Ouais.
Je suis navré de vous apprendre que... C'est aucun des deux, malheureusement.
Oh, c'est Saint-Lucie ?
C'est Saint-Lucie, effectivement. Ah. Et même, j'ai envie de dire, dans nos contrées, le 13 décembre, c'est bel et bien la Sainte-Lucie. Et cette fête, c'est célébrée en hommage à Lucie de Syracuse. Où...
Encore de chez moi, tu vois.
Ouais, t'as vu. Son autre nom est la fête de la lumière, car elle met en avant la lumière pendant la période sombre de l'hiver. C'est la fin du quiz, malheureusement.
Merci beaucoup. Vu qu'on a fait égalité, c'est toi, du coup, qui nous paye un vachement.
Ah, eh bien, absolument pas.
Okay. C'était ça, les
c'est
règles.
Victor.
Parce que
ouais,
c'est
Victor tout le monde.
Victor et Maxine.
Crap. Ça me va comme ça.
Et ben...
non, on réglera les comptes après. Mais c'était mon petit quiz. J'espère que vous avez appris
merci
des trucs.
Romain.
Et que vous...
C'était ouais, marrant, c'était cool.
Super
sympa.
Cool. Merci beaucoup pour ce petit quiz. Un petit mot pour finir un peu l'émission. Notre dernière tous ensemble. Romain, bon, on va commencer par toi directement.
On a deux minutes, non ?
Ouais, on a deux minutes. On peut discuter un petit peu. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ce semestre ? Est-ce que tu as apprécié l'expérience
un désastre absolu. Non, en vrai, c'était vachement cool, mais j'avoue que en même temps des études, c'est assez galère de pouvoir allier les deux et faire un truc extrêmement qualitatif. On a essayé du mieux, ça a toujours fonctionné, il faut être confiant en nous, mais franchement, c'était vachement sympa de vous avoir tous et régulièrement de faire quelque chose d'assez quand même bien au final. On peut être assez fiers de nous, je pense, et de remercier nos formatrices un peu. Maintenant qu'elles ne peuvent plus parler.
Merci bien.
Et puis bien sûr, le semestre prochain, vous pourrez tous nous retrouver sur Fréquence Banane, mais dans d'autres émissions, dans d'autres formats. Est-ce que tu as une idée un peu de où on pourra te retrouver au prochain semestre ?
À la radio probablement, mais sûrement à la radio. Mais plus honnêtement et plus concrètement sur une émission ou plutôt de divertissement. Voilà, voilà.
On a très hâte de t'écouter. Alors, le semestre prochain sur Fréquence Banane et toi, Alfio.
Est-ce que j'ai le temps de parler quelques secondes là ?
Oui, oui,
t'as le temps. Bah c'était cool. Des fois, un peu frustrant parce que, voilà, comme t'as dit, on peut pas aller au fond des choses. Mais j'étais très content de faire ça. Et semestre prochain, peut-être sport, peut-être pas. On verra. Et voilà.
Ok, alors on suivra ça.
On suivra ça.
Victor, un petit mot vite fait.
Moi, j'ai pris un petit coup à la technique aujourd'hui. Bah ouais, j'ai bien aimé expérimenter un peu les différents rôles, un peu moins la technique, comme je viens de le dire. J'ai bien plus aimé les Micropolis, je trouvais que c'était cool d'être assez libre, ouais. De pouvoir faire un truc ensemble, en équipe, et pouvoir parler des trucs qui nous animent plutôt que des trucs imposés. Donc voilà. Et comme Alfio, peut-être une revue sportive, peut-être pas, on verra ce que l'avenir nous réserve.
On verra tout ça. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous auront écouté ce semestre. N'oubliez pas que toutes les émissions sont à retrouver sur Spotify en format podcast. On vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit le semestre prochain. Ciao, ciao.
Des bisous.
Il est 8h.